L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans le monde.
Des valses, une heure de temps.
Ah oui, monde. Une heure et quart. Ouais.
Bonjour. Dans l'écho du parquet.
L'émission qui met le feu au plancher.
Et qui est consacrée aux musiques et danses traditionnelles d'ici et d'ailleurs.
Et nous sommes à l'émission numéro 11 aujourd'hui, une émission que vous pouvez écouter à différents endroits. Par exemple, vous pouvez l'écouter sur Fréquence 7, vous pouvez l'écouter sur Radio Méga et vous pouvez l'écouter sur Radio Saint-Ferréol si vous habitez en Drôme-Ardèche.
Ou en podcast, sur Internet, sur notre audio-blog Arte Radio, l'écho du parquet.
Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans l'émission numéro 11 ?
Alors, ça sera consacré à un groupe de musique traditionnelle qu'on aime beaucoup, mais qui, vous allez voir, distord un peu la tradition, qui s'appelle Triskill.
Voilà.
On les a interviewés.
Donc à partir de cette interview de Triskill, ce qu'on a décidé de faire, c'est une émission spéciale musique bretonne. On va vous présenter quelques galettes bretonnes. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, galette était
une façon... Il n'y a pas de jambon, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de fromage.
Non, c'est pas ça. Oui, déjà, elle est végane. Et c'était une façon de désigner les disques vinyles qui avaient une forme circulaire comme la galette sur le réchaud à galette, je ne sais pas comment on dit. Voilà.
La crêpière.
Voilà, donc quelques disques bretons qui ont comme point commun, de la même manière que Triskill, de revivifier et de... changer un petit peu la musique traditionnelle bretonne. Et ce mouvement de revival breton et d'adaptation au monde moderne, il avait commencé avec quelque chose qu'on va faire écouter tout de suite. Il avait commencé avec ça.
Thank you.
sais pas vous, mais moi ça me fait toujours des frissons ce truc depuis que je l'écoute depuis des années et des années. C'était en effet la suite sud-armoricaine qui vient conclure le célèbre enregistrement du concert à l'Olympia d'Alan Stivell le 28 février 1972. Un concert qui était en quelque sorte à l'époque l'emblème du succès du revival folk en général. Et de sa déclinaison,
qui a été l'un des premiers du revival folk.
Oui, oui, c'est ça. Il fait partie de ceux qui l'ont lancé, ouais. Et le revival folk en général et sa déclinaison bretonne en particulier. Ce concert à l'Olympia, c'est symboliquement une forme de point d'aboutissement, c'est-à-dire que la musique trad de l'époque, elle a tellement de succès qu'elle parvient à se faire entendre à l'Olympia, mais c'est aussi en pratique le déclencheur de la vague trad des années suivantes, parce que ce disque phare, il va ouvrir plein de portes à plein de gens et avoir un gros succès. Outre Alan Stivell à la harpe celtique et au chant, le groupe de rien moins que 11 musiciens qui a enregistré ce concert comprend dans ses rangs ce soir-là aux instruments à cordes pincées un Gabriel Yacoub qui n'a pas encore fondé Malicorne ou un certain Dan Arbraz qui va avoir un succès qu'on connaît dans le monde de la musique celtique et du rock celtique. Le répertoire de la soirée est quasiment intégralement composé d'airs traditionnels qui ont été réarrangés par Stivell à une sauce moderne et souvent électrique. Si c'est la suite armoricaine qui a nos faveurs aujourd'hui, parce que quand même ce la-la-la-la-lélo, il n'y a rien de mieux que ça.
On espère que vous avez fait un andro en même temps.
Voilà, il paraît que c'est un tricot mélangeant airdro-andro au début de l'intro et ensuite c'est un andro. Et donc si c'est ça ce que nous on a choisi aujourd'hui, à l'époque c'est le titre Trimartolo, je sais pas comment on prononce en breton, Trimartolo, qui cartonne à l'époque sur les radios et notamment sur Europe 1 qui hébergeait l'émission à succès Musicorama qui est le cadre dans lequel a eu lieu ce concert à l'Olympia. Lors du concert, le public n'a pas pu rester assis sur les sièges de la salle et s'est mis à danser dans les travées, puis ça s'est fini à l'extérieur de la salle en fest-noz devant l'Olympia. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, c'est raconté dans deux livres qui sont publiés aux excellentes éditions Le Mot et le Reste. Le département musique de Mot et le Reste est vraiment très très bon. Vous avez une biographie d'Alan Stivell qui est écrite par Laurent Bourdelat et vous avez un livre qu'on a beaucoup utilisé d'Arnaud Chouté qui s'appelle Bretagne, Folk, Néotrad et Métissage qui présente un certain nombre d'albums importants, des galettes importantes de l'histoire du revival de la musique bretonne.
Dans lequel vous trouverez notamment tous tous les groupes qui ont été un crève-cœur de ne pas pouvoir mettre dans cette émission et qu'on aime beaucoup quand même. On peut citer Envrac, Storlock, tu disais Dan Arbraz, enfin un tas de groupes fondateurs de la musique bretonne qui sont excellents.
Voilà, tout à fait, et on vous en reparlera. Et les liens ou la présentation de ces deux livres, vous les trouverez sous notre blog sur Arte Audioblog. L'album qui a donc immortalisé cette soirée à l'Olympia est sorti 3 mois plus tard. Et il connaît un grand succès avec 150 000 exemplaires qui sont vendus en un an. Et il révèle au grand public à la fois la musique bretonne revivifiée, mais aussi un petit symbole breton qui est arboré par Alan Stivell en médaillon, un entrelacs celtique nommé le Triskel. Et ça tombe bien, cet emblème a été repris 50 ans plus tard par un jeune groupe breton actuellement hébergé à Rennes, auquel est largement consacrée l'émission d'aujourd'hui. Et comme ils font du métal et que dans le genre kill, ça sonne bien que kill tué en anglais, il y a plein de groupes overkill, tout ça, ils ont transformé ça et le Triskel avec eux est devenu Triskel. On a rencontré 3 des membres, des 5 membres du groupe, Mathieu Foltette, Nicolas Foltette et Morand Letouze, qui sont respectivement accordéonistes, batteurs et guitaristes de ce groupe et qui nous ont expliqué lors de cette interview un petit peu leur démarche musicale et ce qu'elle a de commun et de différent avec celle d'Alan Stivell à l'époque.
Triskel, c'est un groupe de fest-noz. On s'est longtemps posé la question, est-ce que c'est un groupe de métal ou un groupe de fest-noz ? Mais la réponse, c'est clairement un groupe de fest-noz, parce qu'on a un répertoire de musique à danser, on a des airs qui sont bon, pas forcément tous trad, mais qui sont composés dans l'esprit du trad aussi. Et on essaie juste de le mettre en forme avec cette esthétique métal, quoi. Mais c'est vraiment un groupe de Fesnos, quoi.
Mais par exemple, en tout cas, moi je dirais plus un groupe de musique bretonne, parce qu'après, là en ce moment on est Fesnos, mais peut-être qu'un jour on essaiera d'arranger des guers ou des complaintes bretonnes, etc., en métal et tout ça, et donc ce sera pas forcément dansable un jour sur certains morceaux. Mais oui, en tout cas, on a un groupe de musique bretonne d'abord.
Ouais, la musique bretonne ne se résume pas qu'à la danse.
Et c'est pour ça, on en vient à ce que disait Mathieu tout à l'heure, du coup, on ne se considère pas comme un groupe de folk metal, mais plutôt comme un groupe de metal folk. Pour moi, par exemple, folk metal, ça va être un groupe de metal, tout simplement, donc avec diverses esthétiques, donc death mellow, plein de trucs comme ça, mais avec des petites touches de musique folklorique du pays d'où les musiciens viennent, ou d'un autre pays, enfin ça dépend, hein, et aussi, voilà. Et tandis que nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est plus du trad avec, justement, des arrangements métal. Mais ces arrangements métal doivent être au service de la danse. Voilà.
Traditionnel en faisant des arrangements, etc., ou c'est des compos, ou c'est un peu un mélange des deux?
C'est un peu les deux, ouais.
C'est un peu les deux, parce qu'on considère que le matériau traditionnel, à la fois c'est des airs qui sont très précis, un répertoire d'airs connu, mais c'est à la fois une manière de jouer ces airs-là. Et si on considère qu'on compose des airs mais qu'on les joue d'une manière traditionnelle, on s'inscrit un petit peu dans ce champ, je suppose, de musique traditionnelle. Quand on prend un air, par exemple, qui est joué par différents sonneurs, on voit qu'il y a différentes façons de les jouer, différents tempos, différents instruments, différentes accentuations, différents phrasés. Et une fois qu'on retire ce matériau précis de la mélodie, on a tout un ensemble de paramètres qui nous font mieux cerner ce que c'est que la manière de jouer la musique bretonne. Et si on garde bien ces paramètres-là, après on peut composer des mélodies en conservant ces paramètres-là. Et du coup, on suppose, en tout cas, que c'est, ça rend un petit peu une mélodie trad, même si on n'a pas... c'est vrai que la notion de trad et de propriété en musique traditionnelle n'est pas...
Mais il y a aussi ce truc de... Il y a non seulement la manière de jouer, mais il y a quand même aussi des types de mélodies, enfin des dessins mélodiques un peu typiques de certaines, d'une région ou d'une autre, quoi. En Bretagne, par exemple, je pense que c'est assez reconnaissable, les mélodies bretonnes. Mais, ou du moins... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on essaye de composer des airs qui se veulent trad ou qui ont l'air d'être des airs trad, c'est que, en fait, on va chercher dans tout ce qu'on a bouffé avant, quoi. Tout ce qu'on a entendu, des musiques, des mélodies trad qu'on a jouées, qu'on a chantées, qu'on a... Et bah, c'est toujours un peu ça pour moi, la composition, c'est... Tu vas chercher plein d'éléments que t'as intégrés inconsciemment et tu recraches ça dans la manière qui te plaît le plus, quoi.
C'est comme un maçon qui fait un mur, quoi. Quand t'apprends la musique trad, tu t'apprends à décomposer un mur de briques qui est face à toi. Tu dis, ok, c'est telle brique, elle est agencée comme ça par rapport au mortier pour faire un mur, etc. Et quand tu composes ta mélodie, bah, tu réutilises les mêmes briques, des choses qui font partie vraiment du matériau musical trad, mais tu les recomposes à ta manière, tu refais ton mur toi-même, et c'est toi qui mets le mortier.
C'est pareil dans les arrangements métal.
Oui, c'est ça.
On prend de ce qu'on a entendu dans
c'est
les groupes métal qu'on écoute.
C'est des gimmicks, voilà, t'as des gimmicks dans le métal, on les reprend.
C'est comme tout le monde, de toute façon, la composition fonctionne comme ça. Ouais. Donc, ouais.
D'accord pour dire que ce que vous faites, c'est un peu du croisement entre Alan Stivell et Dream Theater?
Non, pas tout à fait quand
pas
même.
Pas tout à fait.
Ouais.
Alors allez-y.
Bah, il n'y a pas de harpe celtique déjà.
Non, mais disons qu'Alan Stivell, c'était pas forcément la même. Comment dire? Après, je connais pas trop sa, comment dire, sa volonté en fait au moment où il a fait sa musique en fait. Je pense qu'à la base, lui, c'est un des pères du revivalisme breton, justement.
Et pas que breton, d'ailleurs, aussi.
Pas que breton, mais bref, en tout cas, pour la Bretagne, c'est un des pères du revivalisme breton. Ouais. Et en fait, je pense que lui, en fait, il voulait juste jouer cette musique pour la remettre au goût du jour, en fait. tout simplement. Et nous, on arrive genre 50 ans après, et puis bah nous, c'est pas... Enfin, si, pourquoi pas la faire découvrir à un public métal. Pourquoi pas, là, c'est notre rêve de faire des festivals métal et tout ça, et de faire découvrir cette musique-là, bah voilà, à ce public-là. Mais c'est vrai que nous... Déjà, à la base, nous, là, on veut faire danser les gens. Donc déjà, c'est un truc qui change avec Alan Stivell, c'est que lui, bah, c'est juste des concerts, en fait. C'est pas fort. Bon, après, on peut danser, hein. Il fait des andros, il fait comme ça, mais bon, il joue pas en fest-noz, quoi. Personne le prend en fest-noz. Et donc, nous, notre but, c'est de faire danser les gens. Donc déjà, voilà. Donc nous, on est un groupe de fest-noz, Alan Stivell n'en est pas un. En fait, voilà, c'est pas un musicien de fest-noz. Et deuxièmement, Dream Theater, justement, c'est pas le groupe... qui nous inspire le plus, parce que bah, par exemple Mathieu et moi on est beaucoup plus death melodique, donc Children of Bodom, Calma, Brainir, Winterson, voilà, et puis sinon il y a eu bah il y avait forcément Iron Maiden, il y a eu Gojira, voilà des gros groupes comme ça, même bah le folk metal forcément, bah moi je suis arrivé au trad grâce à ça un petit peu aussi. Grâce à Alan Stivell aussi, hein. J'aimais bien cette esthétique, Ensiferum, tout ça, j'adorais ça. Et bah, je suis tombé dedans comme ça, et puis tout ça, ça nous inspire, en fait.
Après, ce qui est particulier avec Dream Theater, c'est... Bon, après, j'ai pas digué vraiment au max Dream Theater, mais c'est du prog, ils se mettent des contraintes pour que ce soit un truc vachement technique. Et nous, on a aussi la contrainte de la danse. Et on peut pas non plus faire n'importe quoi.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'on a aussi des arrangements qui sont vachement chialés, quoi. On se met vraiment des... On cherche un petit peu la précision dans chacun de nos arrangements. Et c'est peut-être pas le cas de... Enfin, je pense en termes de précision, tous les groupes de métal vont chercher à être le plus précis possible. Mais l'arrangement, encore, c'est
une chose différente. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui doit remplacer un membre du groupe quand un membre du groupe peut pas, dès que t'apprends toutes les parties. Parce que le trad, t'apprends les thèmes, c'est bon. Dans le métal, bon, t'apprends les structures, elles peuvent être complexes, mais bon, voilà, tu sais faire des trucs rapides, c'est bon, ok, d'accord. Mais là, du coup, il y a plein de trucs, faut savoir danser, faut savoir, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, et bon.
Ou enfin, je voudrais pas être le guitariste remplaçant dans Dream Theater non plus. Quoi.
Non, 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 c'est sûr.
Plutôt de se typer fête traditionnelle un petit peu, quoi, enfin de faire danser les gens, avoir le truc un peu fonctionnel et tout, mais on s'interdit pas quand même de venir présenter ça sur des scènes métal où c'est plutôt des groupes de métal plus classiques qui passent. On a joué à des festivals déjà de métal, on a joué un festival à Lommel
Crazy Fest.
Au Crazy Fest, et puis on a joué au Samhain Fest,
ouais.
À la Mézières. Ouais. Et voilà, ça s'est super bien passé d'ailleurs. Les gens, ils ont bien aimé le métissage.
Il y a eu quelques danseurs aussi à chaque fois.
Il y a des gens qui ont dansé même.
À propos de la danse, du coup, vous êtes tous danseurs dans le groupe. Et donc c'est important pour vous qu'il y ait des gens qui dansent en face de vous.
Oui.
Ouais.
Depuis que j'ai goûté à ça, moi je ne veux plus lâcher.
Hein. Ah, moi non plus.
Depuis que tu as goûté au fait de jouer en voyant des gens danser sur ta musique,
c'est ça. C'est trop bien. C'est trop bien.
C'est un peu une vanne depuis des années, on l'a pas encore fait. Donc on va faire un galop nantais Wall of Death, quoi. C'est-à-dire, galop nantais, c'est une danse qui est en trois parties. Bon, une petite balade, ça se danse à deux en couple fermé. Et puis il y a une danse, une première partie qui ressemble un peu à une Scottish, pour faire très bref. Et puis il y a une partie qui fait monter la tension. Oh, mais une autre partie où tout le monde s'élance en couple et galope un petit peu en... les uns dans les autres un petit peu en essayant de s'esquiver et tout, enfin il y a un petit côté jeu en fait,
il y a plus grand chose,
il y a un côté jeu, et donc nous ça nous ferait marrer vraiment
on n'a pas encore
mais projet, ouais. C'est un projet de longue date.
Moi mon kiff c'est vraiment un pit au milieu d'un rond de l'Oudéac, tu vois.
Ouais.
Et là,
mais en fait, c'est ce qui est arrivé au Samhain Fest quand là je commence à m'emballer, c'est en fait quand on a joué à la Mézières, festival de métal, mais
pour soutenir les écoles.
Une école D1, une école bilingue bretonne, voilà.
En soutien.
Ouais, et en fait, les gens ils se sont mis à danser. Au début, j'annonçais pas les danses, je me disais c'est un festival. Alors, au bout d'un moment, j'annonce les danses, et en fait, les gens ils se mettent à danser. Je me disais, ouais, c'est vrai quand même, on est en Bretagne et tout. Et en fait, il y avait des gars qui commençaient à pauvreté au milieu, quoi. C'est parfait.
Je suis satisfait.
C'est ce que... c'est ça, un projet. C'est de faire se rejoindre les deux mondes aussi dans les danses.
Ouais, carrément.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, en plus de ça aussi, enfin, moi, je trouve... comment dire ? La musique trad, que ce soit bretonne ou autre, en fait, il y a ce petit côté un peu sale dans la manière de jouer. Genre, ça bave un peu de partout. C'est, voilà, on joue en double corde au violon, on met des notes partout, voilà, des trucs comme ça. Et finalement, ça prend un trip un peu. Ça. Et du coup, le métal, bah, c'est... Bon, là, c'est très carré, mais ça bave un peu de partout aussi, quoi.
T'as une sauvagerie, un petit côté.
Et donc, il y a un côté sauvage, en fait, dans les deux.
Et du coup, intense et impliqué, c'est
ça.
Quoi.
C'est ça, moi chaque boom ça me fait transpirer quand j'écoute, hein. Je suis ah, oh, c'est bon, vraiment, c'est trop bien, c'est vraiment
mais
trop bien.
On se posait la question avec chaque boom aussi, mais on a l'impression que c'est des métalleux qui utilisent des instruments trad, en fait.
Alors qu'en fait, ils écoutent pas de métal, et j'étais, mais comment c'est possible?
Alors leur manière d'arranger et de faire monter la tension au sein d'un morceau, c'est la même chose.
En tout cas, ce qu'on est heureux de défendre, nous, avec notre musique, c'est pas un retour à un truc antique et tout. Même il y a d'autres groupes français qui le font et tout, mais... Enfin, quand je pense à ça, je pense à des groupes comme, je sais pas, Skald, ou des groupes qui vont chercher dans l'imaginaire viking et tout. Je trouve ça intéressant. Mais nous, c'est pas ce qu'on recherche non plus. C'est plutôt, en fait, un vivre ensemble aujourd'hui, quoi. Enfin...
Une tradition qui existe toujours, mais qui... Enfin, qui existe de
en
manière...
En fait, danser ensemble... Mais... Voilà,
en fait, ça. Comme j'ai dit, de toute façon, nous, on s'en fout d'être... Enfin, de toute façon, c'est dur de savoir comment on jouait ça il y a 150 ans et tout. Donc, en fait, nous, bah, on arrive à un moment donné, ces musiques trad-là se jouent comme ça. Alors, en duo avec tels instruments, avec tel phrasé, en groupe avec d'autres arrangements, avec des influences qui viennent de partout, enfin bref, des trucs comme ça. Et du coup, bah, nous, on arrive, on est là, on fait la musique qu'on entend, en fait, enfin, voilà, parce que bah, tu peux pas faire de la musique que t'as jamais entendue, de toute manière. Tu peux pas t'inspirer de musique que t'as jamais entendue.
On fait pas beaucoup de recherches, on n'est pas des archéologues, on regarde juste comment la musique autour de nous est faite, quoi. Nos sources vont pas plus loin que le début du XXe siècle.
Explorer carrément d'autres musiques trad qui se dansent en bal trad qui sont pas des fesnos.
Ça peut être compliqué
moi,
quand même.
Moi je
ne
vois pas descendre plus bas que la Vendée. Ouais, moi ça m'a. Enfin, en fait, je suis intéressé par la musique, par plein de musiques en fait. Mais j'ai beaucoup aimé la musique suédoise quand je suis allé là-bas, donc c'est aussi en fonction des rencontres quoi, qu'on fait ça.
Mais du coup, composer une polska, ça te paraîtrait pas incohérent
On ne voudra pas le faire sans trahir l'esprit un petit peu.
Mais en tout cas, je me sens pas assez imprégné pour composer une polska. J'en ai joué que 2-3, tu vois.
En fait, c'est pareil pour du répertoire breton. La danse tréguère, par exemple, c'est une danse qui se fait pas tant que ça en fesnos. Elle est un petit peu oubliée. Et là, on est parti sur un petit peu sur ce répertoire-là. Et on n'est pas allé directement comme ça en disant, tiens, on va faire une danse tréguère. On a dû prendre le temps de s'imprégner un petit peu, d'aller écouter quelques airs, de voir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire de faire danse tréguère. Après, pourquoi pas, je sais pas, une maraîchine.
Par exemple, une danse bretonne qu'on va faire pour le prochain album, c'est la Ride des Citans, comme a dit Mathieu. Et la Ride des Citans, c'est une danse qui est plus dansée du côté de Redon, au sud de l'Ille-et-Vilaine. Et on connaissait la danse, on savait la danser, donc voilà, on la compose et tout. Et à un moment, Mathieu, il commence à il rencontre quelqu'un qui est un spécialiste de cette danse-là, de comment la jouer et tout. Et cette personne-là lui dit, ouais, mais si tu mets des blancs à ces endroits-là, ça fera plus Ride des 6. Et du coup, ils ont retravaillé leur thème.
Des silences.
Des silences, pardon. Ils ont retravaillé leur thème pour mettre les silences comme le gars a dit. Et c'est fait plus Ridé 6, quoi. Et en fait, voilà, nous en tant que Lannionnais et puis Rennais un petit peu maintenant, on connaît un peu les terroirs là, mais en fait, c'est vrai que même en Bretagne, en fait, au sein de la Bretagne, il y a des petites techniques de jeu qui font que ça diffère et que tu les connais pas forcément et que ça va sonner plus ou moins à la mode de cette région là.
Et la gavotte du Pays pour l'être, par exemple, nous dans Triskill on pourra jamais en jouer, quoi, parce que ça se joue pas pareil que la gavotte Pays montagne. Enfin,
jamais, peut-être qu'on en fera une, mais en
peut-être
cas,
mais il faut qu'on travaille le répertoire,
c'est ça.
Déjà été refusé à la programmation de certains fest-noz parce que les organisateurs craignaient, c'était un peu les mots qui...
Ils faisaient le pari, quoi, que ça marcherait pas.
Les organisateurs avaient un peu peur que le métal fasse, entre guillemets, fuir les gens, parce qu'il y a aussi un peu ce préjugé que c'est du bruit aussi, et je pense dans la tête de pas mal de personnes, et tout ça.
Même rien que le volume sonore. Hein.
Et puis en pratique, c'est quand même une musique qui est assez forte et assez agressive, quand même, on va pas se cacher.
Mais la musique bretonne, quand tu compares avec d'autres groupes, en vrai.
Bah ouais. Le bignou dans la tronche, ça fait mal en vrai. Hein. Ça fait très très mal.
Et donc ça tombe bien, on n'a pas.
Oui, c'est parce que moi. Alors, petite anecdote de fin de concert, il y a une dame qui vient me voir à un moment et fait. Oh, c'était un peu bruyant et tout. Puis au fur et à mesure, dans la conversation, je fais ah, c'est dommage, vous avez pas de bombard. C'était faut savoir ce que tu veux.
Savoir ce que tu veux.
C'est ça.
En tout cas, en fait, c'est un peu dur à dire parce que j'ai l'impression qu'on plaît bien dans les festivals métal, mais on en a pas fait beaucoup encore. Donc c'est un peu dur de dire s'il y a des festivals qui vont nous dire c'est des musiques trad, c'est pas trop adapté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre musique, en fait, elle plaît à des enfants, des ados, à des retraités. Le premier fest-noz, vrai fest-noz qu'on a fait en dehors du concours interlycée, c'était que des jeunes, le concours interlycée dont on parlait. Et le premier fest-noz, c'était un truc à Lokemo, près de Lannion, où il n'y avait que des couples de chanteurs et de sonneurs. Bon, nous on arrive, on a 16 ans, on va faire notre truc, métal, fest-noz. On voit moyenne d'âge élevée dans le fest-noz, on se dit, oh là là, on avait un peu l'angoisse de. Pour les gens, ils vont se barrer en fait. C'est pas du tout adapté, Triskill, dans une soirée comme ça. Pas du tout. En fait, les gens, ils ont tous kiffé, en fait. Ils ont tous dansé de A à Z, comme si c'était un groupe de chanteurs et de sonneurs.
Bah, ils venaient pas pour voir un groupe, ils venaient pour danser.
Ils venaient pour danser, et en fait, comme on a plutôt bien fait le taf, les gens, ils sont restés danser. Si tous ceux qui nous écoutent ont peur qu'on joue trop fort, effectivement, on a un gros volume avec la batterie, c'est normal. Mais on a un super sonorisateur. Qui fait parfois de gros efforts pour que la musique reste écoutable en fest-noz sans bouchon et que les gens puissent danser devant la scène sans bouchon. Le gros projet actuel là, c'est un deuxième disque qui va sortir. Donc le premier c'était donc un EP, donc un 5 titres, et là on va se diriger vers un truc deux fois plus long, quoi, donc un album. Hein. Et on pense le sortir en novembre 2024. Et voilà, donc c'est toujours de la musique bretonne à danser, sauf quelques excursions à écouter, entre guillemets, comme j'en parlais tout à l'heure. Ce qu'on aime bien faire aussi, c'est d'aller chercher des danses bretonnes qui nous parlent et qui sont pas forcément beaucoup à la mode en ce moment en fest-noz, quoi. Là je parlais de la suite Tréguer. C'est une suite qui est quasiment jamais jouée en fest-noz actuellement, parce qu'elle a failli disparaître et ça a été plus compliqué de trouver des sources et de la remettre au goût du jour, la garder un peu vivante. Là, on s'intéresse aussi aux danses de Haute-Bretagne. On va faire un avant-deux de danse sur l'album.
Et l'autre projet aussi pour l'année, là, c'est essayer de défendre notre répertoire traditionnel breton sur d'autres scènes trad que les scènes qu'on peut qu'on peut trouver en Bretagne, quoi.
We'll be right back.
Écho du Parquet, l'émission qui met le feu au plancher. Quelle était cette excellente galette que l'on vient de déguster après avoir dégusté celle de Triskill ?
Alors on vient d'écouter une danse ficelle, un traditionnel repris à la sauce géniale du génial groupe Fleuve, Fleuve au pluriel.
Tu aimes bien peut-être.
On dirait oui. Alors s'il y a bien une chose qu'on comprend assez vite, même sans être spécialiste de la musique bretonne, mais qu'on peut comprendre après une trentaine de minutes de cette émission par exemple, c'est cette propension à la transe avec des boucles répétitives qui caractérisent assez bien les mélodies et les danses bretonnes. Avec Fleuve, cette dimension-là est particulièrement explorée, avec une couleur électro et rock progressif en plus, qui s'y prête assez bien. C'est peut-être l'une des raisons qui fait que le Fest-Noz, donc le Fest-Noz, vous l'aurez compris, c'est le bal folk des Bretons, est particulièrement vivant et foisonne de groupes extrêmement inventifs. On en a eu un aperçu avec Triskill, qui vont piocher, y compris dans les musiques actuelles, pour faire sur la base du breton quelque chose qui peut aussi bien ressembler à des soirées techno endiablées. CF, le groupe Denez, qu'on n'a pas écouté aujourd'hui, mais que je vous conseille d'aller voir.
On a déjà programmé dans l'émission, je crois que c'est dans la première ou la deuxième, si vous voulez écouter ça.
Voilà. Un autre révélateur de cette hybridation est qu'on retrouve Fleuve, donc le groupe qu'on vient d'écouter, aussi bien dans la programmation de jazz à Vienne que dans les fest-noz de village et des centres culturels bretons. Fleuve, c'est un trio où l'on retrouve une basse avec Samson Dayou qui la joue, une clarinette et clarinette basse, Emilien Roby, qui est même d'ailleurs plus spécifiquement sonneur de Trojan Gaul, qui est le style traditionnel de clarinette du centre-Bretagne. Et puis on a Romain Dubois au clavier Fender Rhodes et aux machines. Alors après 10 ans d'existence et 2 albums, il semblerait que Fleuve en prépare un pour 2024, un autre. On attend ça avec impatience et aussi on attend avec impatience de les voir un peu en Rhône-Alpes. Ça suffit de faire des fest-noz uniquement en Bretagne. La, 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 la.
peine d'être un terme à duire. Elle m'a toujours pas parlé d'une gueule d'être un terme à duire. Et malgré tout, si il y en a rêvé, nous en étions à gueule, voilà, elle m'a l'air mal, pas d'univers, dans ma zone, je commence. Oui, on va de rien spire, oui, y'a rien à gauchade. Oui, on va de rien spire, oui, y'a rien à gauchade. On va sentir, ouais, rien, ouais, un bézard, ouais, rien, ma fille, ma rande, ouais, j'en dis pas avec un spire. Non, une pipe, vamos, c'est respire, y'a son nécessaire. Non, une pipe, une pipe, vamos, c'est respire, y'a son nécessaire. La roue en être baptisée, t'en viens, une vieille.
Allez, dans cette exploration très orientée vers l'ouest, aujourd'hui on va faire une petite pause et tourner notre regard vers l'Orient, puisque on va vous présenter notre petite capsule de découverte de la nouvelle émission de Gilles Moncoudiol, musique de sac et de cordes. Alors Gilles nous présente régulièrement son émission mensuelle sur nos ondes avec ce petit teaser. Il n'a pas fait beaucoup d'émissions les derniers temps parce que je crois qu'il a beaucoup voyagé, mais là il s'y est remis et vous trouverez la description de l'émission et le lien pour aller l'écouter sur la description de notre audioblog Arte. Et je dis cap à l'est parce que l'émission est consacrée cette fois-ci à une flûtiste qui explore tout particulièrement les musiques orientales de type bulgare ou turc.
À la chute du mur de Berlin et à l'ouverture des frontières, on a assisté, pour notre plus grand plaisir, à un déferlement de musique venue des pays de l'ancien bloc soviétique, Roumanie, Bulgarie, Hongrie principalement, et aussi de l'ex-Yougoslavie. Au point que de nombreux artistes français issus de différentes esthétiques musicales, jazz, rock alternatif, chansons françaises ont tenu à introduire dans leurs compositions des rythmiques, des harmonies et des sonorités aux allures de musique de l'Est et des Balkans. Si pour certains ces emprunts sont restés assez superficiels, voire stéréotypés, d'autres artistes se sont donné les moyens d'une véritable démarche de connaissance et d'apprentissage de ces répertoires, de ces cultures musicales. C'est le cas de Léa Macquart, musicienne qui, à la suite d'un parcours classique en flûte traversière, a bifurqué vers les musiques traditionnelles des Balkans et du Moyen-Orient, avec la découverte du ney et du kaval, ces flûtes obliques de ces régions-là. Pour la suite de l'histoire, les rencontres, les apprentissages, les diverses créations auxquelles Léa Macquart a participé, je vous invite à venir écouter la 41e émission de musique de sac et de cordes, une émission en réécoute et téléchargement sur radioblv.com, à la page de l'émission. À bientôt donc. Thank you.
Et on se quitte en douceur avec du piano pas toujours doux d'ailleurs, celui joué par Didier Squiban, qui est très imprégné du breton évidemment.
Ah, on revient en Bretagne.
Voilà, c'était le thème de cette émission malgré une petite excursion à l'Est. Mais voilà, Didier Squiban qui a fait beaucoup de choses différentes malgré son fort attrait pour la Bretagne. 25 albums, quelques-uns très jazz, d'autres assez planants. Il a aussi composé pour l'opéra, avec toujours cette note bretonne évoquée dès les pochettes de disques, qui lui rendent bien hommage avec des paysages marins ou des ports. Enfin, tout ça est très joli.
Molène.
Voilà. Didier Squiban, en vrai jazzman, improvise, cite et distord, et on va en écouter un aperçu avec sa version du traditionnel Annalar, qui a aussi été repris par Alan Stivell, dont on parlait en début d'émission.
Par Trian aussi.
Et voilà. Et comme il est très court, vous entendrez ensuite une suite d'Andro du pays vannetais. Et on se quitte là-dessus. Les deux morceaux sont issus du disque Molène, enregistré dans l'église de cette île dont sont originaires ses ancêtres, le disque dont tu parlais tout à l'heure. Et on se dit à dans 2 semaines.
Au revoir.